Bonjour, bienvenue, c'est l'atelier du gagne-pain. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du gagne-pain, et avec ce nouveau rendez-vous, l'atelier du gagne-pain, nous allons prendre le temps de rencontrer régulièrement des professionnels du recrutement. Avec eux, nous découvrirons un autre regard sur les métiers du digital. Dans ces ateliers, nous vous proposerons les conseils de ces professionnels pour faire les bons choix dans votre projet et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient.
Bonjour et bienvenue, c'est l'atelier du gagne-pain. Pour ce nouvel atelier, nous avons le plaisir d'accueillir Bastien Guéry. Bonjour Bastien.
Bonjour Bertrand.
Merci beaucoup Bastien d'avoir accepté notre invitation. Bastien est référent logiciel libre à la Direction interministérielle numérique, la DINUM. Il est conférencier et intervenant au sujet de l'open source et des logiciels libres. Bref, Bastien est très bien placé pour répondre à nos questions. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose, Bastien, pour te présenter ?
J'ai 47 ans. J'ai connu le logiciel libre à la fin des années 90. Ma tante, qui n'avait rien à voir avec l'informatique, m'a donné un CD-ROM en me disant « Toi qui aimes bien bidouiller, j'ai un collègue qui m'a passé ça, je ne sais pas quoi en faire. » Regarde-toi, et j'ai installé une distribution Red Hat à l'époque sur un vieux PC. Et un peu comme dans la pub où on ouvre le frigidaire pour un monde merveilleux de glace, et bien là, un monde merveilleux de logiciels libres s'est ouvert à moi.
D'accord, mais tu avais quand même déjà un peu touché à l'informatique pour qu'on te donne tout ça, ou c'était...
Je m'amusais petit à programmer en basique des petites choses, et j'étais un peu accro à ça, effectivement. Mais pas du tout à cette époque-là, j'ai 15-16 ans et je lis de la poésie, je me destine à faire plutôt de la philo et des études littéraires.
Ok, avec toi Bastien, on va explorer le sujet des logiciels libres, de l'open source. Et dans cet atelier, on essaie de donner des conseils d'experts pour aider ceux qui nous écoutent à trouver un job, à comprendre, à construire leur carrière dans le digital. Si tu le veux bien, on va... reprendre les différentes questions qu'on a évoquées en préparant cet entretien, c'est-à-dire c'est quoi le logiciel libre, qu'est-ce que ça veut dire l'open source. Deuxième question, on tournera autour de comment l'intégrer dans son activité, qu'est-ce que ça veut dire pour encore une fois ceux qui nous écoutent. Quels sont les premiers pas qu'il faut faire pour se lancer dans le logiciel libre ou l'open source. Et puis après, quels seraient tes conseils encore une fois pour ceux qui nous accompagnent. Donc on peut débuter par c'est quoi l'open source ? C'est quoi le logiciel libre ? Comment tu l'expliquerais simplement à ceux qui nous écoutent ?
Tous ceux qui nous écoutent, j'imagine, ont déjà installé un logiciel et à un moment donné se sont retrouvés avec une petite boîte de dialogue qui leur demande d'accepter des conditions d'utilisation. En général, on zappe, on scrolle, on appuie, on avance, on ne lit pas forcément. Un logiciel libre, il y a un peu virtuellement la même boîte de dialogue, sauf qu'au moment où on accepte les conditions d'utilisation, on accepte d'être entièrement libre vis-à-vis de ce logiciel. C'est-à-dire d'être libre d'aller étudier le logiciel, de voir dans son code source comment il est fabriqué, libre de le modifier entièrement. S'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on les enlève. Si on veut adapter des choses dans l'interface ou même dans le fonctionnement profond, on peut tout changer. D'être libre aussi de partager ces modifications avec les autres.
D'accord.
C'est ça qui fait la force communautaire des logiciels libres. Et donc, on peut citer tout de suite des grands logiciels libres comme le noyau Linux, ou comme le projet GNU, ou comme Firefox pour les utilisateurs, LibreOffice. Tous ces logiciels sont nés de la capacité que quelqu'un avait de contribuer au logiciel, au code source qu'une autre personne avait rendu libre.
Si je fais un parallèle en disant je saisis un livre et je vais devenir aussi rédacteur de ce livre, c'est un peu la même idée. Je vais à la fois l'utiliser, le lire, mais aussi pouvoir le modifier, le changer.
Exactement. Alors, dès qu'on introduit cette notion de libre, on va parler de droit d'auteur. Et effectivement, les logiciels aujourd'hui reposent entièrement sur le droit d'auteur. Donc le copyright aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon. Et ce droit d'auteur, il est utilisé soit pour empêcher les gens de faire des copies, de faire des œuvres dérivées, soit pour les autoriser à faire ce qu'ils veulent avec ces œuvres-là. Et donc le logiciel libre, c'est une façon de retrouver un peu ce qu'on a dans le domaine public, en disant si cette œuvre est tombée dans le domaine public, j'ai le droit d'écrire la suite, j'ai le droit de la modifier, j'ai le droit de la commercialiser librement. Donc, les logiciels libres, chacun a le droit de les commercialiser librement, par exemple, aussi.
D'accord. Donc, si je reprends mon exemple du livre, ça veut dire que c'est OK pour un livre, mais un livre qui a déjà été publié il y a assez longtemps, ça doit être à peu près 80 ans, je crois, pour tomber dans le domaine
70
public.
70 ans.
70 ans pour tomber dans le domaine public. Donc, je prends un vieux livre de 70 ans et je peux en faire ce que je veux. Sauf que là, on parle de logiciels actuels, de choses nouvelles qui sont utiles tous les jours.
Oui, après pour le livre, il y a aussi les droits moraux, et donc les ayants droit ont des droits moraux sur les œuvres, même au-delà de 70 ans, il faut s'adresser à un juriste. Mais pour les logiciels, oui, on peut aujourd'hui, là, la plupart des logiciels ont moins de 70 ans, il y a des vieux logiciels qui tournent encore, mais pour tous ces logiciels-là, le mouvement du logiciel libre et de l'open source, on pourra discuter de la différence, c'est vraiment de donner la main aux utilisateurs. C'est d'abord un mouvement pour que les utilisateurs ne soient pas prisonniers de logiques d'exploitation commerciale qui s'appuient sur la propriété intellectuelle pour interdire des choses aux utilisateurs.
Quand tu dis interdire des choses aux utilisateurs, on ne parle pas encore de payer quelque chose, parce que dans la plupart des logiciels qu'on utilise, on paye aussi. On nous interdit de faire des choses, mais on paye aussi. Alors que dans l'open source, est-ce qu'on paye encore?
Alors, dans l'open source, on ne va pas payer la possibilité d'étudier le code, de le modifier, de le repartager, mais on peut tout à fait payer d'autres choses. On peut payer du support à l'entreprise qui connaît très bien et qui développe le logiciel libre. On peut payer pour déployer des instances en software as a service, comme on dit, ou on peut payer pour de la formation, pour de l'adaptation du logiciel. Donc, il y a toute une économie du logiciel libre qui est florissante, qui est croissante. On a en France le Conseil national du logiciel libre, le CNLL, qui représente les éditeurs open source. Et ce sont des boîtes qui font du chiffre d'affaires, qui avancent, qui fournissent des solutions. Donc, il y a toute une économie existante.
Ok, on mettra dans les commentaires du podcast les liens vers le CNL pour pouvoir justement permettre à ceux qui nous écoutent d'aller plus loin sur cette définition. Ok, ça me paraît assez clair sur la définition. Alors après, il y avait cette question de nommer. Donc tu as dit logiciel libre ou open source. C'est quoi cette différence? C'est sémantique ou c'est plus que ça?
Il faut plonger un tout petit peu dans l'histoire. Le logiciel libre est né dans les années 80. Avec une figure qui est celle de Richard Stallman, qui dans les années 80 fait le constat que ces communautés de hackers qui partagent librement du code source ou MIT sont en train de se réduire un peu comme peau de chagrin. Et pour une raison très simple, c'est que ATT, à l'époque, aux États-Unis, a racheté, a repropriétarisé le système Unix qui était prêté aux universités.
Ça commence avec Unix, c'est le premier système?
Alors Unix est l'un des systèmes d'exploitation, mais qui était librement accessible pour la plupart des chercheurs qui pouvaient lire le code source, s'en inspirer, développer. Et puis à un moment donné, on leur dit non, vous ne lisez plus le code source et puis vous n'avez pas le droit de modifier. Il y a cette fameuse anecdote où Richard Stallman a un bug avec son imprimante et on lui dit non, tu n'as pas le droit, le labo t'interdit parce qu'on a signé des clauses de garantie qui nous empêchent de corriger le driver. Et donc là, c'est la goutte d'eau, il se rend compte que les communautés de hackers dépérissent. Et il se dit, OK, il faut lancer un mouvement qui va explicitement donner le droit à chacun de étudier, exécuter comme il veut, modifier, partager ses modifications. Et il lance le mouvement du logiciel libre. Alors, il ne le lance pas comme un manifeste. Il se met à développer un système qu'il va appeler GNU, en référence à Unix, pour dire GNU is not Unix. C'est-à-dire, ce n'est pas Unix, parce que ça prend le contre-pied de la logique de privatisation du code source. Et ça va être une logique de développement communautaire. Tout ça n'est pas très connu dans les années 80 en dehors des cercles de recherche. Et c'est Linus Torvalds qui arrive en 91 en publiant le noyau Linux qui permet à plein d'étudiants et de chercheurs d'installer un système GNU Linux sur leur machine. Et à partir de ce moment-là, le mouvement prend forme. Arrivent les années 90 où des gens se disent bah, le logiciel libre c'est bien, mais ce côté militant, révolutionnaire, ça fait tache dans le business. Donc on va enlever ces idéaux de liberté et on va rappeler que c'est simplement de meilleurs logiciels.
C'est là que ça devient open source.
Exactement.
Ok, c'est clair. Donc, il y a effectivement une histoire qui explique ce changement de dénomination, mais ça veut dire la même chose.
Aujourd'hui, ce sont les mêmes logiciels. C'est-à-dire qu'un logiciel libre ou open source, il est défini par sa licence. C'est sa licence qui va nous octroyer les libertés en tant qu'utilisateur. Et ces licences, elles sont reconnues par deux instances. C'est la Free Software Foundation qui est l'héritière du mouvement du logiciel libre de Richard Stallman, qui continue à valider des licences. Et l'Open Source Initiative, lancée à la fin des années 90, en 98, qui représentent ce mouvement de l'open source. Les deux mouvements, en fait, œuvrent pour la même cause. Aujourd'hui encore, les libristes et les tenants du logiciel libre se retrouvent dans les valeurs du logiciel libre, des valeurs de partage, des valeurs communautaires qui ne sont pas celles forcément du business. Et les tenants de l'open source se retrouvent dans l'efficacité de l'outil, l'efficacité des méthodes de développement, la transparence, la confiance qu'ajoute l'open source.
Ok. On n'a pas parlé dans le détail de ce que tu faisais, mais c'est peut-être intéressant pour comprendre un peu ton érudition d'abord sur le sujet, mais aussi comprendre ce que tu fais concrètement à la direction interministérielle du numérique. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ?
Alors, la direction interministérielle du numérique, c'est la DSI Group de l'État. C'est elle qui impulse les stratégies numériques pour les ministères. C'est elle aussi qui contrôle quand des projets ministériels sont au-delà de 9 millions et de sommes conséquentes. Et c'est elle qui propose des outils aux agents publics. En ce moment, la DINUM développe une suite numérique qui est faite avec des briques open source. Et cette suite, elle est proposée à tous les agents en administration centrale. Sur l'open source en particulier, la DINUM porte un discours très fort. Elle dit aux administrations, les logiciels libres, il faut avoir confiance dans ces logiciels. Ce sont de bons logiciels. Nous allons vous aider à trouver les prestataires qui peuvent vous aider à migrer vers du logiciel libre. Je donne un exemple, mais on a eu récemment VMware qui commençait à multiplier les prix de ses licences. Il a fallu réagir à ça et parfois, c'était des logiciels libres qui étaient choisis. Et ben, dans ce cas-là, la DINUM peut venir en appui. Et donc, on a ce pôle qui s'occupe de l'open source et j'ai cette chance de travailler en équipe avec plein de gens qui s'y connaissent beaucoup en logiciels libres, en open source à la DINUM pour développer des produits avec aussi des méthodes agiles qui restent innovantes dans l'administration.
Donc ça veut dire que vous proposez à l'ensemble de l'administration publique des solutions, vous recommandez des solutions pour changer les logiciels et utiliser plus de logiciels libres. C'est ça que ça veut dire
On recommande, on aide les ministères aussi à trouver les bons prestataires parce qu'on a un écosystème français d'éditeurs et de boîtes intégratrices qui fonctionne très bien et parfois on fait nous-mêmes. Donc là, on a fait Chap, par exemple, qui est basé sur Element. Et c'est un outil de conversation instantanée à la Mattermost ou Slack pour ceux qui utilisent des solutions propriétaires. Et donc ça, ces outils, maintenant, ils sont rentrés dans les pratiques des agents. On ne peut plus revenir en arrière, mais c'est un outil souverain. On maîtrise le code. Il est déployé sur des infras qu'on maîtrise aussi. Et il est à la disposition d'autres pays qui voudraient l'utiliser.
Tu as prononcé un mot important dont on avait aussi parlé en préparant cette interview, c'est souverain. Donc tu veux dire que c'est important aussi d'un point de vue souveraineté nationale ou souveraineté européenne de posséder ces logiciels libres, en tout cas de travailler sur ces logiciels libres, parce que ça nous permet de nous rendre plus libres, encore une fois.
Nous affranchir de dépendance soit commerciale, soit technologique. On n'en est pas là, on a encore de fortes dépendances dans tous les sens, mais cet esprit et la place du logiciel libre sur la souveraineté, c'est écrit dès la loi pour une république numérique de 2016, l'article 16 pour les curieux, qui dit les logiciels libres, c'est bien, il faut en utiliser pour des raisons de maîtrise, d'indépendance et de pérennité. Donc ces trois mots, maîtrise, indépendance, pérennité, c'est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui souveraineté. Donc je ne rentre pas après dans les débats sémantiques sur souveraineté, souverainisme ou autre, mais il y a de facto, on voit bien, la définition que j'ai donnée du logiciel libre, il y a deux tendances possibles qui sont concurrentes et complémentaires aujourd'hui, c'est de profiter égoïstement de tous ces logiciels libres, c'est de dire c'est génial, d'abord souvent c'est gratuit, je peux installer Linux, j'ai plus de virus, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, sans jamais reverser à la communauté, ou être dans une démarche de partage, de contribution, de reverser à la communauté. Donc c'est pareil au niveau des États. On pourrait être dans une logique purement consommatrice en disant merci l'écosystème, débrouillez-vous les grands acteurs pour nous faire une distrib Linux qui marche du feu de Dieu. Mais on peut aussi, et c'est ce qu'on essaye de faire, contribuer, rentrer en relation avec les grandes fondations, Mozilla, Eclipse, OW2. L'Europe s'active beaucoup là-dessus. On construit des collaborations avec l'Allemagne, la Hollande notamment, pour gagner en souveraineté, pour favoriser les logiciels libres.
Excellent, ça me paraît hyper clair. Si maintenant on se met du point de vue, encore une fois, de ceux qui nous écoutent, pour comprendre opérationnellement les logiciels libres, il faut commencer par quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire ?
Alors ça, je pense qu'il faut... je vois deux façons. Soit on se mouille la nuque tout doucement en installant Firefox, en allant lire...
Donc ça veut dire changer Chrome ?
Ouais, changer Chrome pour Firefox ou d'autres navigateurs libres. On regarde navigateurs libres et puis on en découvre peut-être d'autres. Installer LibreOffice, commencer par là aussi.
Donc là, ça veut dire on supprime Microsoft ?
Bon, on supprime pas.
On supprime pas on...
Non, on essaye. On dit plein de logiciels libres marchent dans tous les systèmes.
Quand tu dis on se mouille la nuque, ça veut dire on y va doucement. On vérifie si l'eau est chaude ou froide. Et donc voilà. Là, ça veut dire qu'on installe en plus quelque chose et on vérifie en parallèle si ça marche bien par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser.
D'abord ça, plus on va avoir la communauté. C'est-à-dire que derrière chaque logiciel libre, il y a des gens qui s'activent pour le faire avancer. Que ces gens soient 3 dans un garage ou 300 dans une grosse communauté constituée, ils existent. Allez les voir. Donc, on fait ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre la jauge de cette communauté qui, le plus souvent, communique de façon transparente sur des forums, sur des mailing lists, sur Stack Overflow, partout. Donc, on fait ça, c'est la façon douce. Sinon, on y va carrément, on prend son courage à deux mains, on se met en haut du plongeoir et on installe une distrib GNU Linux. On peut, y a des distribs très, très facilement accessibles qui s'installent via une clé USB qu'on peut mettre en USB live, c'est-à-dire on met la clé USB et quand on l'enlève, donc on met la clé USB pour faire tourner le système d'exploitation, tester Ubuntu, Arch Linux, Debian ou tous les autres systèmes d'exploitation. Linux Mint, il y a plein de sites de distribution maintenant orientés débutants. Et quand on met la clé, le système se lance sur la clé, et puis on enlève la clé, on n'a plus rien sur son ordinateur, on l'a comme avant. Et si on est content, si on dit ah, c'est pas mal, eh ben, on clique sur Install, et on l'installe soit en double boot, à côté de l'autre système d'exploitation, soit on installe carrément une machine dédiée à Linux et puis on explore comme ça.
Et ça, on peut le faire sur n'importe quelle machine, c'est-à-dire une machine qui fonctionne sur Microsoft ou sur Apple.
Oui.
Ça marche dans les deux cas.
Oui, toutes les architectures maintenant sont supportées.
Et donc ça veut dire qu'il faut à la fois se dire on va le faire, mais aussi on va contribuer. C'était ça que tu disais tout à l'heure.
Non, je disais que les deux attitudes étaient possibles. C'est-à-dire que, évidemment que l'attitude de consommation... je ne voulais pas du tout dire péjorativement que c'était de la passivité totale et que c'était du freeriding, comme on dirait. C'est tout à fait légitime. On n'est pas obligé de contribuer à quoi que ce soit. Il n'y a aucune obligation morale. Mais par contre, on a cette liberté-là. Et à un moment donné, si on se prend au jeu... Alors, moi, dans mon histoire, j'ai commencé à devenir développeur parce que je m'amusais gentiment à faire du piratage en n'y connaissant pas grand-chose, mais en essayant de rentrer dans des ordinateurs. Et puis un jour, je piratais aussi des logiciels, je téléchargeais des logiciels et je me disais, tiens, bon, en fait, on ne se fait jamais attraper par la police. Et un jour, j'ai cru pirater un logiciel et ce n'était pas du tout du piratage. J'ai installé un logiciel libre qui me disait, tu peux faire ce que tu veux avec et voici le lien vers la liste de discussion. Et comme j'avais lu un super bouquin qui s'appelait Libre aux enfants du savoir numérique, d'Olivier Blondeau et Florent Latrive à l'époque, était sorti en 2000 aux éditions de l'Éclat.
On mettra le lien là aussi dans les commentaires du podcast.
Ça reste un classique, il faut le lire. Je lisais ce bouquin, donc je voyais les articles de ce monsieur Richard Stallman, donc je me disais, bon voilà, c'est de la vieille histoire, j'avais 5 ans quand tout ça est né. Et puis en envoyant un mail sur la liste de discussion de ce logiciel, IMAX, une personne qui me répond est Richard Stallman. Donc là, je ne comprends plus. Mon cerveau bug complètement. Je me dis, ah, maintenant qu'il est vivant. Ah, mais donc tout ça, ça existe pour de vrai. Les gens s'entraident pour de vrai et on peut plonger dans le bain. Donc, mon message, c'est ça. C'est allez-y doucement, à votre rythme, mais n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un au bout du fil.
Allons-y doucement. Ça veut comment dire qu'on est un peu développeur quand même, qu'on a quand même une petite connaissance du code, qu'on sait un peu manier ça. Ça ne s'adresse pas à tout le monde.
Pas du tout. Non, tout le monde peut utiliser un système GNU Linux. Moi, je ne compte plus le nombre de gens chez qui j'ai installé un système GNU Linux, de gens qui font essentiellement de la bureautique sans avoir besoin de macro Excel poussé et qui en ont marre d'avoir des virus. Donc ou alors qu'il y a un ordinateur qui rame un peu parce que les dernières mises à jour de Windows
sont
pénibles. Et donc, je lui dis, bon, bah, écoute, si tu veux, on fait l'essai. Pendant un mois, tu utilises ce système. Je lui dis même pas le nom. On n'a pas besoin de parler du nom. C'est juste un autre système avec un système de fenêtrage complètement identique. Il retrouve ses icônes. Il retrouve Internet. Il ne sait pas quel est le navigateur. Donc, il clique sur Internet pour aller sur Internet. Il clique sur bureautique pour aller sur bureautique. Donc, non, tout le monde peut s'y mettre pour ce qui est d'utiliser le système d'exploitation. Il y a plein de gens. Aujourd'hui, dans l'État, on a la gendarmerie. Il y a 80 000 agents de la gendarmerie qui utilisent un système libre basé sur Ubuntu. Ils se portent très bien. Et peut-être que certains ne savent même pas que c'est du logiciel libre ou ne connaissent pas l'histoire. Heureusement.
Et si on essaie justement de creuser un peu cette question, il y a combien de personnes aujourd'hui en France ou dans le monde qui utilisent des logiciels libres ? Est-ce qu'on arrive à savoir ça ?
Ah, c'est une excellente question. Je crois qu'on n'arrive pas à savoir ça. On sait qu'en France, on a une communauté de chercheurs qui est très active sur des contributions, notamment à la distribution Debian. Donc quand on dit une distribution, hein, c'est que des gens décident de faire une sélection de logiciels libres et de les rendre installables comme système d'exploitation. Donc Debian, Ubuntu, Red Hat, tout ça, c'est des distributions qui s'appuient sur Linux comme noyau et GNU comme l'ensemble des logiciels utilitaires indispensables, le compilateur, toutes ces choses-là. Debian fait sa conférence annuelle en juillet à Brest, et on sait qu'on aura beaucoup de chercheurs français qui sont débianistes. Voilà. Donc c'est difficile. Donc ça, c'est les contributeurs, mais même pour les utilisateurs, c'est très difficile. Ce qu'on observe, c'est que même en augmentant de façon très timide, Linux, le système GNU Linux sur le poste de travail est en croissance relativement constante, sans aller au-delà du 6% des postes utilisateurs. Mais on avance tout doucement.
Quand on a préparé l'interview, on a aussi parlé d'une autre catégorie de ces logiciels dont on parle, ou de ces plateformes dont on parle, qui étaient des plateformes comme Wikipédia, et tu avais envie aussi de préciser la différence entre logiciels libres et ces solutions-là.
Alors, Wikipédia, donc tout le monde connaît, c'est un projet d'encyclopédie collaborative libre. On retrouve le mot libre parce que Wikipédia étant né en 2001, on avait déjà des licences. 2001, c'est aussi l'année de naissance des licences Creative Commons au nombre de 6, et parmi lesquelles il y a cette licence qui dit bah, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le contenu, simplement vous êtes obligé de créditer l'auteur. Et dans l'une des déclinaisons des licences Creative Commons, qui est celle utilisée sur Wikipédia, par contre, si vous l'intégrez ou si vous faites une œuvre dérivée, merci d'utiliser la même licence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des fois l'effet viral ou la réciprocité de la licence Creative Commons by share alike, c'est-à-dire partager comme vous avez pris.
D'accord.
Et donc, les licences de Wikipédia sont inspirées des licences libres, et notamment de la licence très connue dans le monde du libre, parce que c'est celle initiée par Richard Stallman, qui est la GPL, la GNU General Public License, qui dit bah, « Oui, vous pouvez intégrer ce bout de code source dans votre projet, mais merci de mettre tout le projet sous la même licence. » C'est l'effet « copyleft », c'est un peu le jeu de mots pour dire « On prend le contre-pied du copyright, et la gauche d'auteur va vous obliger les uns et les autres à construire une communauté. » Donc les grands projets comme Wikipédia s'inspirent de cette logique de gestion du droit d'auteur pour construire des communautés autour de ressources libres. Et ces communautés, maintenant, on les appelle souvent des communs numériques. Donc, parce que le modèle s'est reproduit ailleurs, par exemple pour OpenStreetMap, qui est une base de données d'informations géographiques.
D'accord.
Donc ça, c'est collaborativement
concurrent et libre. Concurrent de Google Maps, mais en version libre.
Exactement.
OK. Et alors, quand on parle d'Android, on parle de quoi alors ?
Android, on parle du système développé par Google qui s'appuie sur des briques libres, des briques open source, et qui rajoute par-dessus des fonctionnalités propriétaires qui continue à enchaîner les utilisateurs. Donc, on parle d'un système libre.
Au départ libre, mais qui après devient propriétaire chez Google.
Comme a fait Steve Jobs avec le système Mac OS, qui était au départ, alors ce n'était pas Linux, c'était BSD, donc c'était un autre système libre, mais il a pris ça et puis il a rajouté une interface, mais la valeur initiale du système d'exploitation était dans la communauté autour du système BSD. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre que la logique du libre, c'est de faire monter la marée pour tout le monde. C'est qu'on sait que les coûts pour développer un système d'exploitation de zéro sont immenses. Si on part tous en contribuant à un commun numérique comme Linux ou un logiciel libre collaboratif, eh ben on avance tous en même temps. Ce qui permet quand même ensuite d'avoir des gens qui vont faire des percées sur tel ou tel aspect d'innovation qu'ils vont apporter.
Excellent, ça me paraît hyper clair, en tout cas beaucoup plus clair. Il y a une question dont on a aussi parlé en préparant l'interview, c'est de dire que ces logiciels libres, cet open source, ça crée des nouveaux métiers. Et je crois que tu avais envie de parler de nouvelles opportunités, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent.
Bah déjà, ça a créé mon métier. Donc moi, je suis expert open source. On vient, dès qu'il y a une question open source, on sollicite notre équipe à la DINUM et on avance comme ça. Et après, ça se décline, il y a plein de versions. Mais bah, je prends le métier de juriste open source. Aujourd'hui, les licences libres, bah, ça crée des contraintes. C'est une partie du droit de la propriété intellectuelle qui est passionnante, qui a des évolutions permanentes. Si je prends un sujet dont on va peut-être parler plus, mais si je prends la question de l'IA, est-ce qu'une IA entraînée sur des logiciels libres, est-ce que les conditions de la licence permettent à l'IA d'exploiter ces codes sources dans les contenus générés? Bah, c'est une question de juriste. Voilà. Donc, il y a des spécialisations pour chaque métier, dev, juriste, manager, recruteur. Et il y a aussi ce métier de, bah, quand on a beaucoup d'expérience sur le logiciel libre, on peut essayer de construire une stratégie dans une entreprise ou une administration. On a plusieurs administrations qui s'y mettent. Par exemple, je peux citer France Travail, qui a une entité dédiée à l'open source dans toute son organisation. Et pas juste pour faire de l'innovation, hein, parce qu'on aurait tendance à se dire bah, c'est un sujet innovant, donc ça va être des équipes qui font de l'innovation. Non, c'est des équipes qui viennent aussi profondément changer les logiciels qui sont dans les infra.
Merci beaucoup. Pour conclure, on avait parlé, évidemment, on a déjà un peu parlé de tes conseils, mais il y en avait quand même un qui tournait autour de l'IA, parce que l'IA est quand même très présent. Mais quels seraient tes autres conseils pour ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent?
Aller sur l'un des sites de référence des communautés autour du logiciel libre en France, c'est linuxfr.org. Le site est là depuis 25 ans, je crois qu'ils ont fêté cet anniversaire l'année dernière. Aller à la rencontre de ces gens qui sont des gens qui existent pour de vrai. Envoyez-moi un mail à bzg@bzg.fr. Les libristes aiment bien répondre aux mails.
Allez aussi. On mettra ces liens dans les commentaires du podcast.
N'hésitez pas, c'est des rencontres. Tout est né de rencontres. Ne vous laissez pas enfumer par les doctrinaires qui auront une vision tellement ferme du libre qu'elle sera fermée, elle vous exclura. Allez-y et trouvez des alliés pour découvrir à votre rythme. Et c'est cet univers et l'avenir, il faut y aller.
Donc ça veut dire qu'il faut être open, quoi, en fait, globalement, si je résume par rapport à l'open source. Il faut être ouvert, aller voir un peu à l'extérieur, ne pas hésiter à ouvrir les portes et aller voir.
Oui, on dit souvent que bah oui, l'informatique, il faut quand même garder du plaisir. On est là pour le plaisir, pour l'excitation de la nouveauté, de l'invention. Ça, c'est des valeurs qui sont très chères au monde du logiciel libre. Donc il faut être ouvert et faites-vous plaisir en allant découvrir toutes ces choses-là, et surtout, c'est une sorte d'auto-formation permanente. Donc, vous allez découvrir un état d'esprit de partage et de pédagogie qui peut que vous faire du bien.
Bastien, merci beaucoup. Je pense que c'était très clair. On mettra les liens pour que les gens qui veulent continuer la discussion avec toi puissent le faire avec ton adresse mail. À très bientôt. Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.